France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
On aurait bien tort en France de tout vouloir sacrifier au spectacle, parce que le cinéma français, assez faible dans le spectaculaire, est très fort sur l'expérience, sur l'existentiel. C'est comme ça. Des films irrésumables, des écrans pris pour des feuillets arrachés à des livres de bord et à des journaux intimes, du noir et blanc et des voix off, c'est ce qui rend le cinéma français unique. Un chant d'amour, Pickpocket, Le Testament d'Orphée, Le Petit Soldat, L'Enfance Nue, L'Amour Fou, Toute Eustache et aujourd'hui, L'Enfant Secret. Voici comment Serge Danet, dans le Libération du 19 février 1982, parlait de L'Enfant Secret, le dernier film de Philippe Garrel. Son premier aussi, après une décennie de films expérimentaux, qui s'appuyaient, sans tout lui sacrifier, sur un récit, inspiré de la propre expérience du réalisateur et de son histoire avec la chanteuse Nico. L'histoire d'amour entre un homme et une femme, interprétée par deux acteurs bressoniens, Henri de Maublanc et Anne Wiazemski, et de l'enfant entre eux, né d'une union précédente. Le petit garçon, lui, était interprété par Harry Pevgen, le fils de Nico. Le 13 février 1983, Philippe Garrel et Anne Wiazemski parlaient de l'enfant secret dans le cinéma des cinéastes, au micro de Claude-Jean Philippe, Caroline Champetier et Pierre Donadieu.
Ce ne sont plus ceux qui cultivent les beaux-arts, ce ne sont pas ceux qui s'occupent de l'art, art poétique ou bien musique. Les artistes sont les acteurs, les actrices.
Si nous étions des artistes, nous ne dirions pas le cinéma, nous dirions le ciné.
Mais si nous étions de vieux professeurs de province, nous ne dirions ni ciné ni cinéma, mais cinématographe.
Aussi, mon Dieu, faut-il avoir, avoir du goût.
La cicatrice intérieure, le berceau de cristal, le bleu des origines, le lit de la Vierge. Il se trouve que les films correspondant à ces titres sont aussi beaux que ces titres et que l'auteur de ces films s'appelle Philippe Garrel, qu'il vient d'avoir cette année le prix Jean Vigo. Il me semble que Jean Vigo lui-même aurait été plutôt content de cette attribution. Il est là avec Anne Wiazemski, que nous remercions très vivement d'être là au Cinéma des Cinéastes pour la première fois. Je me demande pourquoi, d'ailleurs, parce que depuis le temps que j'ai envie de faire une émission du Cinéma des Cinéastes avec vous, parce que je sais que vous avez tellement à dire sur ce qui s'est passé pour vous. Il y a eu au hasard Balthazar.
Enfin, je ne sais pas si j'ai tellement à dire, mais en tout cas, merci.
Alors, moi, je crois que le plus simple, c'est de raconter comment les choses sont venues, d'autant que c'est un film qui raconte, hein, très, très humblement et presque naïvement, une histoire. Moi, je voudrais savoir comment les choses vous sont venues pour ce film.
C'est-à-dire, je me suis enferré à un moment matériellement à faire des films sans scénario, en me tenant assez éloigné des gens de cinéma. Et j'en suis arrivé à sortir dans une petite salle dans un quartier périphérique et à avoir un public très restreint. Et à un moment, il a fallu que je sauve le navire, c'est-à-dire, je me suis dit, si je raconte pas une histoire, plus personne ne viendra voir mes films. Alors, j'ai écrit un cahier sur lequel j'ai noté des souvenirs et j'ai apporté ce cahier à Ned Vadement, qui était la personne que je voyais à l'époque, qui est une scénariste. Elle m'a dit ce qui était bien, elle m'a dit ce qu'il fallait enlever, elle m'a dit qu'il ne fallait pas faire des déclarations d'intention, qu'il fallait simplement que les choses se disent par elles-mêmes dans le dialogue. Et puis, quand j'ai eu fait une espèce de montage de ses souvenirs, j'ai tourné le film avec Anne. J'ai demandé à Anne, une semaine avant de tourner, je l'ai appelée, je lui ai demandé si elle voulait bien tourner dans mon prochain film. Elle a été très gentille, elle a dit oui parce que vous avez fait Marie pour mémoire. Elle aurait pu dire non parce que j'avais vraiment pas la cote à l'époque. Et puis on a tourné en 15 jours le film, très très rapidement, en noir et blanc, avec des élèves de l'IDEC, des stagiaires de chez Alga, qui est un loueur de caméras, et avec un budget très 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 réduit. On a eu une subvention, mais on l'a toujours pas touchée, et le film sort ce soir. Alors il faut vraiment pas dire que les films d'aujourd'hui du jeune cinéma sont produits par les subventions.
Bien, Philippe Garrel, tout de même, vous me donnez une raison là qui est celle de simplement d'une raison de personnel et disons de quasiment de carrière, c'est-à-dire si mes films continuent à être vus par si peu de gens, je serai obligé d'arrêter, donc il faut que je raconte des histoires. Mais à travers vos entretiens et à travers ce que vous êtes et à travers ce que représente d'une certaine façon aussi dans notre esprit Anne Wiazemski, on se dit bien qu'il s'agit bien aussi de l'histoire d'une génération et qui soudain tourne. Enfin, actuellement, il y a quelque chose. Il me semble qu'il est en train d'arriver quelque chose de nouveau à cette génération. À Philippe Garrel, si vous voulez déjà en parler.
Oui, je dis matériellement, c'est une manière timide de parler du naufrage qui était en vue. Le naufrage, puisque Jean Eustache s'est suicidé fin 81, un naufrage matériel, ça va de pair avec un naufrage spirituel. Et effectivement, et peut-être j'ai fait ce film pour lutter contre la pulsion de mort et d'échec qui était devenue très 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 forte dans notre génération. Il y avait une espèce de mépris de la réussite très grand. Et chaque fois qu'une personne réussissait, elle était aussitôt mise à part et dénoncée philosophiquement. Alors donc il y avait un mépris de la réussite aussi grand qu'on devrait avoir sainement pour du mépris pour l'échec. Alors c'est aussi pour se tirer d'affaire spirituellement.
Anne Wiazemski, alors bon, vous, il est évident que votre visage est lié à celui, du premier film de Bresson, d'une certaine façon, au hasard Balthazar, c'était d'une certaine façon le premier film de Bresson. Après quoi, c'est le coup de force historique de La Chinoise et de la série de films avec Godard, et puis les années 70. Alors donc, d'une certaine façon, vous appartenez à cette génération que moi, j'ai appelée comme ça pour moi-même, la génération éperdue. Qui est une génération de comédiens, d'ailleurs. Et c'est même peut-être, d'une certaine façon, principalement, par certains côtés, une génération de comédiens, si on pense à des gens comme Maria Schneider ou à Bulogier, oui, ou à des gens comme ça, qui sont les filles de votre génération. Moi, je voudrais savoir comment, justement, ce film, L'Enfant Secret, puisque c'est de lui que nous sommes en train de parler actuellement, a touché quelque chose en vous par rapport à ces années, par rapport à cette vie sentimentale qui était celle de votre personnage et à ses aboutissements.
D'abord, peut-être, on n'a pas les mêmes souvenirs sur comment ça s'est passé avec Philippe, visiblement, parce que quand il m'a appelé pour faire son film, j'aimais beaucoup Marie pour mémoire, et puis, par contre, certains après, ne me concernaient plus du tout. Donc, je suis allée au rendez-vous pour voir Garrel avec vraiment l'attention assez ferme de lui dire que je ne voulais pas faire son film, parce que j'avais pas envie, justement, de faire un cinéma trop confidentiel. Parce que je m'attendais à trouver le Philippe Garrel que j'avais connu 10 ans avant, qui faisait du cinéma pour 2-3 personnes, état d'esprit dans lequel j'étais aussi 10 ans avant et dans lequel je n'étais plus. Et puis là-dessus, je suis tombée sur quelqu'un qui avait envie maintenant de s'ouvrir et de communiquer quelque chose et de communiquer une histoire de sentiments, une histoire d'amour. Et c'est là-dessus qu'on s'est entendu complètement, avec cette chose qui m'a complètement bouleversée chez lui. C'est-à-dire, c'était quelqu'un pour qui c'était une nécessité absolue de tourner. Enfin, je n'avais jamais rencontré, y compris chez des gens quand même, comme Godard, Bresson ou Pasolini, un tel besoin. C'était vital. Il fallait que Philippe démarre la semaine prochaine.
Alors, en cela, Philippe Garrel, il me semble que vous... C'est drôle parce que il me semble que vous ressemblez à de ce fait... alors, on parle de votre génération, mais soudain, on a l'impression aussi... d'ailleurs, Caroline, c'est un peu ce que vous dites aussi quand vous parlez de Garrel. On a l'impression que vous ressemblez aussi à tous les grands artistes du passé pour qui la création artistique était vraiment quelque chose de beaucoup plus que vital. Enfin, et ça, c'est vrai de tout votre travail, non? De toute votre vie avec le cinéma, non?
Oui, c'est vrai de tous les artistes, mais... Peut-être Par exemple, nous, les gens de notre génération, on a défendu, quand on avait 16 ans, la nouvelle vague. Et on défend les choses a priori, parce que les gens de la nouvelle vague étaient des gens intègres, sont des gens intègres. Mais maintenant, on n'a pas voulu dire du mal de la nouvelle vague. On a peut-être eu tort de ne pas tuer les pères, là. Simplement, je pense, la nouvelle vague comparée à la Sixtine, c'est rien du tout, c'est une petite boutade. Alors, en fait, c'est bien a priori, si notre génération, pour mettre un pied à l'étrier, et pas rentrer dedans à la nouvelle vague. Au lieu que cette chose nous serve et qu'elle soit reconnue comme quelque chose de sage, c'est quelque chose qui nous a desservi. C'est-à-dire que, comme on n'a jamais dit du mal des anciens, et des gens qui avaient été nos maîtres, on a considéré qu'on était une génération mineure. Jean Douchet dit même qu'on est une entre deux générations. Et je pense pas du tout ça de nos jours. Je pense que aujourd'hui, ça m'intéresse beaucoup plus de voir un film de Chantal Akerman qu'un film de la Nouvelle Vague, par exemple. Et je disais ça pour, c'est pas pour pour faire de l'humour et dire a priori du mal de la Nouvelle Vague, mais le cinéma, c'est une toute petite chose comparée à l'histoire de la peinture. Et il y va de beaucoup de parisianisme et d'un a priori. On n'a pas assez séduit le pays, on n'a pas fait un coup dans le pays. Alors que la Nouvelle Vague a fait un coup quand même, qui était un coup artistique très fort. Mais peut-être...
Publicitaire aussi.
Oui, oui. C'est-à-dire qu'on s'est préoccupé de ce qu'on écrivait dans nos films, mais pas du tout de le faire savoir et de les lancer. Alors c'est peut-être pour ça que je suis... plus en écoute de nos jours de ce que les critiques ont appelé le jeune cinéma. Mais ça ne répond pas du tout à votre question, d'ailleurs.
Non, si, parce qu'au fond, à part la réponse sur l'histoire de la peinture et sur la chapelle Sixtine, ça me paraît... Non, c'est tout à fait la réponse, puisqu'en fait...
Oui, parce qu'avec la Nouvelle Vague...
Caroline Champetier.
On a quand même un petit peu oublié ce qui était de l'ordre de la souffrance dans l'art. Je ne veux pas enfoncer des portes ouvertes, mais... c'est quand même une génération et un cinéma, le jeune cinéma des années 70, où la souffrance a une part absolument symptomatique et où il faut faire quelque chose avec cette souffrance. Il y a ça évidemment dans les films de Garel, il y a ça dans les films de Stache que trop, il y a ça dans les films d'Ackerman d'une autre manière, parce que c'est une souffrance, je dirais, plus féminine, plus quotidienne, plus acceptée. Mais bon, la fin de Jeanne Dielman est épouvantable. Donc j'aimerais bien que Garel parle un petit peu de la souffrance comme mode de vie, parce que je pense qu'il faut savoir souffrir pour vivre et pour faire du cinéma.
Oui, sauf qu'il est assez compliqué de montrer d'être pessimiste au cinéma. Vous savez très bien que dans l'art, les gens qui sont les pessimistes et qui ont une vision noire du monde réussissent post-mortem. C'est sans doute ce qui arrivera à Jean Eustache. Je pense que dans 40 ans, les gens diront « Jean Eustache, c'était un génie et il n'a pas été écouté par le pays de son vivant ». Et moi, je trouve que c'est dommage, parce que d'aller voir des films de la Nouvelle Vague, voir tous ces messieurs séduire les petites jeunes filles, voir leurs scènes de ménage, leur histoire sur la communication, tout ça, on aurait mieux fait de se tourner vers les gens comme Jean Eustache, qui nous racontaient leurs histoires d'amour et leurs difficultés, comment les trahisons des femmes les blessaient, comment ils vivaient des histoires passionnelles dans des chambres comme ça, avec 3 sous en poche. Je pense que là, il y a toujours un décalage. Si on ne se préoccupe pas des esbroufs à l'extérieur, il n'y a pas d'écoute et il y a un décalage dans l'histoire de l'art entre le moment où l'art se fait. De toute façon, notre génération, si déjà on peut en parler, c'est parce qu'elle est déjà... elle est en train d'achever son travail intuitif. Alors... si je dis ça, c'est parce que j'ai vu beaucoup de films dans ma génération qui sont absolument pas considérés comme des choses importantes. Et je sais que ce sont des films très, 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 très importants. Mais on les considère pas encore comme les chefs-d'œuvre de la Nouvelle Vague dans le pays. Et je pense qu'on est arrivé à le moment où on risque de perdre ce qu'on avait de bien. Et en même temps, il s'avère que ça se répète toujours historiquement. Les artistes, au moment où ils font des choses importantes, les font d'une manière très isolée et très incomprise du public. Alors, c'est ça qu'on a vécu dans les années 70.
On en vient à l'idée du secret. On pourrait parler du secret, de l'enfant secret.
Oui, aussi, il m'apparaît très difficile de faire un chef-d'œuvre quand le monde entier a les yeux tournés sur vous et que ce film est annoncé avant même d'être tourné. C'est peut-être pour ça que les gens qui ont une certaine notoriété arrivent à font des films beaucoup moins beaux que dans la première époque de leur vie.
Anne Wiazemski, je voudrais que tout de même, maintenant que vous répondiez à la question que je vous ai posée tout à l'heure, à savoir comment vous, justement, Philippe Garrel parle très bien de cette espèce de mouvement de sa génération à laquelle vous appartenez. Moi, je voudrais savoir si vous... comment les choses se passent pour vous? Justement, vous avez glissé là-dessus. C'est-à-dire, vous avez dit, il fut un temps où j'étais d'accord pour faire Vendeste, ou pour faire des films, en principe, perdus d'avance quant à leur carrière commerciale. Maintenant, c'est fini, j'ai envie d'autre chose. Alors, je veux savoir ce que recoupe cette envie d'autre chose.
Non, d'abord, moi, j'ai beaucoup de mal avec cette idée de génération, parce que j'ai pas du tout conscience d'appartenir à une génération plutôt qu'une autre, comme à une famille artistique, oui, plutôt qu'à une autre famille artistique. C'est-à-dire qu'il y a des gens que j'aime à Paris, en province, en Amérique, en Italie. Ils ont mon âge ou pas mon âge. Enfin, les gens que j'aime ont mon âge en général. Vous voyez, donc maintenant, c'est parce que je trouve que c'est... D'un coup, je me sens terriblement vieillir quand j'entends parler de ma génération et que je me sens englobée dans la génération de filles, enfin la génération 70, tout à coup je me dis mais oui c'est vrai, je fais partie de ce truc.
Enfin non, c'est vieillir, pas inexagéré quand même, vous êtes très jeune.
Non, mais je peux pas penser, Philippe pense en tant que participant d'une génération précise, stage et tout ça. Moi pas du tout, alors j'ai pas répondu pour ça.
Oui mais alors, vous répondez pas, alors l'envie de faire tout naturel des films secrets... au début des années 70, c'est une envie de faire autre chose. Enfin, qu'est-ce que vous avez envie de faire maintenant?
Oh, moi, je crois que quand on reste dans ce métier, c'est-à-dire quand on s'en... Disons, puisque je le fais maintenant depuis quand même... Je suis là-dedans au moins depuis 13-14 ans.
Vous faites du théâtre aussi?
Et je fais du théâtre aussi. Oui. Quand on reste là-dedans, il ne faut pas se raconter trop d'histoires. C'est parce qu'on a envie d'être aimé, connu et reconnu. Bon, voilà, je crois que c'est...
Le métier de comédien.
Oui, on ne peut pas, au bout de 10 ans, continuer à dire « je veux travailler que pour 3-4 amis ». Ce n'est pas vrai. Il y a un moment où on a envie que ça s'étende.
Si vous trouvez la critique de la Talente la première année, vous trouvez dans Cinémonde un vague entrefilé expliquant qu'en plus le réalisateur est mort depuis et que, bon, que c'est un petit film un peu raté, un peu maladroit, qui était prometteur. Bon, eh bien, la Talente a été projetée depuis devant des centaines de milliers de gens. Enfin, oui. Donc, dans l'instant, la Talente était faite pour les copains de Vigo et puis après, on sait pas.
Ah non, mais je ne pense pas du tout qu'il faille... démarrer un film en se disant justement, en disant, il faut qu'il soit vu par un maximum, d'abord parce qu'on se trompe complètement, et en plus si je pensais vraiment ça, je ne serais pas en train de travailler avec Philippe Garrel, justement. Oui. C'est quand même Garrel que j'ai choisi. Bon. Néanmoins, si il se trouve qu'en travaillant avec Philippe, ce film est aimé et vu, je suis comblée, voilà.
Philippe Garrel, moi je voudrais savoir, vous avez dit tout à l'heure, j'ai demandé à Anne Wiazemski de jouer le personnage une semaine avant. Pourquoi? Alors là, je voudrais savoir si ça a été soudain l'envie de lui demander, ça a été juste après l'avoir écrit, pendant que vous l'écriviez, au moment où vous lui demandiez de le faire, et pourquoi, pour quelle raison vous avez eu envie soudain de retravailler avec Anne Wiazemski?
C'était après que j'ai écrit l'histoire, c'est-à-dire je l'ai écrit complètement subjectivement. En faisant un relevé par la mémoire qui doit être quelque part qui doit transformer un peu les choses de dialogue que j'avais eu dans la vie. Et c'est quand j'ai eu fini de faire mon cahier que j'ai demandé à Anne. Et j'ai demandé à Anne parce qu'elle est très équilibrée par rapport à moi. Moi j'ai une névrose d'échec très très forte comme ça. Et en même temps, je suis pas. Un mystique, je ferai pas une ânerie comme c'est Jean-Pierre Léaud qui disait que Jean Eustache avait fait une ânerie quand il s'était suicidé. Et c'est quelque part, il faut pas résoudre la difficulté d'être par le suicide, mais c'est parce que Anne est très équilibrée que je lui ai demandé. J'ai pensé que ça me donnerait l'impression de naviguer dans de meilleures eaux que sur le radeau sur lequel j'étais juché. Et ça s'est avéré juste, c'est-à-dire je donnais carrément à Anne des lettres d'amour réelles que je sortais de ma poche, que j'avais reçues d'une femme. Je veux dire, elle avait un comportement qui était sans doute psychanalytiquement juste vis-à-vis de ça. C'était compliqué pour moi de mettre comme ça le tout sur la table et dire, voilà, j'ai vécu ça, c'est très compliqué, une femme m'a trahi, j'ai beaucoup aimé, quelquefois j'ai essayé de me suicider, j'ai une dépression nerveuse, tout ça. C'est très compliqué de parler à un acteur de ce qui fait la chair d'une œuvre. Et puis, je pensais que Anne saurait faire ça, puis elle a très bien su le faire, parce qu'elle est quelqu'un de très attentive et de très juste, et en même temps avec une espèce de rigueur qui fait que ça, on pouvait fabriquer de la dialectique avec ça. Alors qu'avant, c'était plutôt des blessures.
Oui, alors, je crois que c'est le moment de passer à l'inverse, c'est-à-dire à la mise en œuvre du film, hein, Caroline. Même si on ne parle pas dans l'enfant secret et avec vous, de manière générale, de la matière même, de la matière cinématographique, c'est au-delà de la mise en scène, c'est quelque chose. Vous avez avec le cinéma une relation telle que, bon, c'est indescriptible ce qu'on voit, hein, sûr que c'est, ça n'est traduisible qu'en autre, il faudrait prendre une caméra.
Non, il y a quelques mots qui peuvent aider. Je crois que c'est un grand primitif et un grand classique. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a le sens du cinéma. Si, je crois que les mots servent à ça, Claude.
Vous m'avez habitué à être plus précise. Prenons la première séquence, c'est le fait qu'on n'entende pas de son.
Les chemises très blanches.
Oui, alors oui, des choses comme ça, oui, parce que c'est ça qui donnera aux gens envie d'aller le voir, je crois. On n'entend pas de son. Oui, une chemise très blanche.
Oui, il y a par exemple une espèce de désir de trivialité. Il s'agit de quelqu'un qui est... peut-être à la campagne, derrière une porte de bois, et sans doute en train de chier. Et puis, il y a une jeune fille qui arrive en chemise très blanche et qui semble avoir très envie de faire pipi. Et puis, on voit des pieds assez beaux. Et le jeune homme, également en chemise très blanche, ouvre la porte de bois, sort. Et sort, ne sort pas tout à fait. Et à ce moment-là, il y a un baiser de tout jeune amoureux. Des baisers comme on s'en donne à 15 ans, peut-être maintenant un peu plus jeune, ou je ne sais pas. Et à un moment donné, il y a vive l'anarchie. Il y a quelque chose de... Quand on se réveille le matin et qu'on voit le jour, il y a un éblouissement de blanc. Ce blanc-là est de l'ordre de ce même éblouissement. C'est pour ça que je dis primitif. Ça a à voir avec quelque chose pour la première fois. Et il s'agit de deux personnes qui peut-être s'embrassent, pas pour la première fois, mais c'est peut-être leur premier amour. Il a parlé tout à l'heure de sa douleur et c'était peut-être sa première grande douleur d'amour, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose de premier dans ce cinéma. C'est-à-dire que malgré tout ce qui s'est passé dans le cinéma depuis 90 ans, on a l'impression qu'il fait du cinéma pour la première fois. Il n'y a rien de ce que je dis, ça ne doit rien déflorer. Pour la première fois et avant tout le monde.
Alors, Philippe Garrel, vous nous avez entendu, délirer sur. Non, mais enfin, bon. Ça tient un peu quand même toujours. Le commentaire tient toujours un peu de. En tout cas, d'une dérive par rapport à ce qu'il y a réellement sur l'écran, qui, là encore une fois, demande à être vu et écouté pour soi-même. Pour dire que. C'est toute la difficulté. Un jour, quelqu'un m'a dit avec une très grande naïveté, mais pourquoi vous parlez du cinéma à la radio ? C'est vrai que c'est tout le problème. Et donc, effectivement, dans ce que vous dites, Caroline, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la vie intérieure et de la. Effectivement, quelque chose qui se situe entre la veille et le sommeil, ou en tout cas entre le sommeil et la veille. Est-ce que c'est quelque chose comme ça, Philippe Garrel, qu'il faut voir peut-être en tout cas le début de votre film.
Oui, ça c'est parce que je me suis beaucoup promené de longues années dans l'imaginaire. Et alors même si je décris des scènes réalistes, quelque part il y a une trace de ça. Et puis par exemple les jeunes acteurs qui font l'ouverture du film, c'était pas des comédiens du genre de qui se destinaient au cinéma, c'était des punks, des groupes de rock'n'roll punk. J'ai trouvé parmi eux les personnages qu'il y a autour du couple principal du film. Alors ça vient du fait que ce qu'ils amènent, parce que les gens ne savent pas très bien, comme ça les gens ils ont peur un peu, ils regardent les punks, tout, il y a des amis qui disent mais peut-être c'est un peu fascisme tout ça là, c'est une manière de se comporter, c'est pas du tout... ce que je pense de ce qu'ont fait les punks, très bien. Et peut-être que si ça, il y a une espèce de référence à Vigo aussi dans ce début. Enfin, moi, c'est comme ça que je reliais les choses entre elles. Et alors, si je pense Vigo et si je pense les punks, tout ça, pour moi, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, c'est de l'art. Pour le plaisir d'en faire et parce qu'il y a le besoin d'en faire. C'est pas de l'art pour épater la foule. Et c'est peut-être ça qui fait que il y a des moments dans le film, pour d'autres moments du film, c'est d'autres références qui me sont venues à l'esprit. C'est peut-être ça qui fait qu'on a l'impression qu'il s'agit de cinéma en vrai et pas d'un spectacle pour passer une heure et demie.
D'autant que vous n'effacez absolument pas les traces de votre travail. C'est-à-dire que, à tout moment, on sait que c'est un film qui est en train de se faire. Enfin,
Ah oui, oui, ça, oui. C'est parce que j'aime bien le cinéma, mais je préfère la vie, en fait. Je préférerais que toutes ces choses-là n'existent pas, et c'est un moindre mal. Je pense toujours que l'art, c'est un moindre mal. Je pense que l'art, c'est inoffensif, ça fait de mal à personne. Et je pense qu'on est obligé d'en faire pour avoir un métier, mais je préfère vraiment ma vie. Alors, c'est peut-être
oui,
pour ça.
Oui, sauf que pour dire ce que tu viens de dire, il a quand même fallu que tu fasses ce film, justement.
Oui, il a fallu que je lâche du lest et que j'alimente un peu mes films avec ma vie. Et c'est peut-être pour ça que je le faisais pas pendant une époque, c'est peut-être parce que ça me gênait, en fait, de tout le temps réinvestir comme ça, le moindre sentiment, la moindre histoire qu'on vit et exploiter comme ça pour faire venir des gens et vendre des tickets d'entrée à une caisse de cinéma, c'est un peu obscène, c'est vrai. Et alors, c'est peut-être ça qui était difficile et qu'il faut se forcer à faire, puisque c'est ça que les gens veulent voir. Et qu'en fait, il y a peut-être des gens qui sont... par exemple, j'avais lu une phrase de Dulin dans un livre très très belle, où il disait « Il y a toujours un enfant qui écoute quelque part », il parlait de sa salle de théâtre. Alors il faut se rassurer en pensant des choses pareilles. Alors à savoir, il y aura quelqu'un qui comprendra, ou il y aura quelqu'un qui sera trahi, ou quelqu'un qui aimera passionnément, comme ça, pour l'infini, un autre être, ça sera important pour lui dans sa vie. Et comme, par exemple, j'avais vu les films de Jean-Luc Godard quand j'avais 13 ans, Alphaville, par exemple, ça avait été ça pour moi. C'est-à-dire, je pensais, quand j'ai vu Alphaville, je pensais, on a le droit de penser différemment, on a le droit de trouver que... la police, c'est un gigantesque cauchemar d'État, comme ça. Et puis que la seule chose qui est belle à vivre, c'est l'amour. Et qu'en même temps, que la poésie, comme ça, se clocharde et vit dans la misère et que sont les vrais êtres. Et on a le droit de ne pas savoir réussir au milieu de la société d'aujourd'hui. Et alors, moi, j'essaye un peu de donner, bien que je ne sois pas un cinéaste de l'envergure de Jean-Luc Godard, mais j'essaie de donner à quelques individus l'envie de vivre et en disant simplement « tu me ressembles », comme disait Baudelaire.
Ce qui fait la force du film, je trouve, c'est qu'on a rarement filmé du vivant aussi présent que celui-là. C'est que vous parlez de l'amour de la vie. Et je crois que votre amour de la vie, il n'est pas exclusif de l'amour du cinéma. Et c'est que votre amour du cinéma vous permet de saisir la vie comme rarement. Et ma question, c'est, vous parlez du retour à l'autobiographie. Est-ce que c'est pas ça aujourd'hui? Parce que il y a pratiquement plus que là qu'on réussit à saisir du vivant, parce que du vivant, il y en a eu ailleurs autrefois, dans les films.
Oui, c'était aussi pour trouver une histoire. C'est parce que ça m'ennuyait d'inventer des histoires. Et c'était aussi pour trouver quelque chose qui suive et qui puisse se dire et se comprendre, qui n'était pas uniquement de l'image. C'était pratique, simplement, l'autobiographie.
Philippe Garrel, tout de même, il y a quelque chose, à travers ce que vous dites, qui me paraît, qui me rappelle quelque chose que je suis en train de, sur quoi je suis en train de réfléchir personnellement, c'est quand d'un côté on écrit, hein, que d'un autre côté on s'occupe de cinéma, on découvre que écrire, c'est d'une certaine façon appeler. Hein. C'est dire que si on écrit, c'est on écrit des lettres d'abord. Hein. On écrit à sa maman pour dire je suis en classe de neige, je pense à toi. Hein. Et donc pour l'appeler, c'est-à-dire pour appeler une réponse. Alors que quand on filme, c'est toujours de l'ordre de l'éloge. Et finalement, quand je pense à certains des moments, y compris des plus désespérés, puisque Le berceau de cristal était un film désespéré, par exemple. Il y a chez vous, alors est-ce que je rêve ou est-ce que c'est moi qui la mets, cette dimension de l'éloge? Enfin, je vous montre ceci parce que je trouve que c'est à montrer.
Ah oui, l'admiration pour les êtres, oui. C'est pour ça que j'aime bien la peinture d'ailleurs, c'est parce que c'est une attention très 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 soutenue, tournée vers un être, pour vers son modèle. Enfin, la peinture, tout de même chose. Au Louvre, il y a une partie des toiles qui s'immisce dans la vie intime des peintres à travers les siècles. Puis il y a aussi des jeux romains et des conneries devant lesquelles je ne m'arrête pas. Mais quand je vais au Louvre, mettons, et je regarde Madeleine à la Veilleuse, par exemple, je sais bien que c'est une femme que Georges de la Tour a aimée. Alors je pensais qu'au cinéma, il n'y avait pas besoin de dire qu'on l'aimait, que la manière de la filmer le ferait comprendre. Puis c'est pas vrai, parce que le cinéma c'est quand même vécu comme ça à la base, après le travail, le soir et tout, donc il faut bien mettre les points sur les i et dire, expliquer les choses pour qu'elles soient comprises. Et on parlait en entrant ici avec Claude Jean-Philippe du fait que c'était à la fois, que ça soit comme la mode vestimentaire, le cinéma, c'était à la fois... un bien et un mal, ça, en même temps, ça faisait que l'histoire de la Cinémathèque, comparée à l'histoire du Louvre, c'est rien du tout. Mais il se trouve que c'est beaucoup plus les films de la Cinémathèque qu'on voit le soir à la télévision, parce qu'on est plutôt que on fréquente le Louvre. Et c'est donc un bien et un mal, ça permet de diffuser. Et en même temps, je crois que, en fait, c'est pas grand-chose, cette histoire de film... comparé à l'histoire de la peinture. Mais comme il se trouve qu'on est
c'est
le nez sur
Piala.
Une image...
C'est le côté Piala du
cinéaste.
Je
pense ça en vrai. Je pense ça en vrai, au sens...
Non, mais ça, je pense
non,
que
alors,
pensez,
non, alors,
que...
Non, okay, la question, non, si j'étais un journaliste professionnel, je vous dirais, alors, Philippe Garrel, pourquoi ne faites-vous pas de peinture?
Ah oui,
non,
la peinture, oui.
Bon, non, mais attention...
C'est parce qu'on est surdéterminé, c'est parce que mon père est un acteur du théâtre, et puis qu'on a dû me pousser quand j'étais... C'est Sigmund Freud, là. C'est quand on est petit, ce qu'on vous inflige détermine ce que sera le restant de votre vie. Alors on a dû me...
Oui, mais alors là, à plus forte raison, il y a une chose qui me frappe beaucoup quand je pense à vous, c'est la façon dont vous exprimez qui est admirable, parce qu'en plus, elle est complètement singulière, c'est vraiment oralement, j'entends. C'est complètement la vôtre, avec un ton de voix, avec une douceur, avec quelque chose qui n'appartient qu'à vous. C'est-à-dire que, comment se fait-il que vous n'écriviez pas? C'est quand même, bon, il est évident que quand on voit les écrivains de votre génération, parce que ceux-là, on les voit, je veux dire, on les voit à la télévision, vous ne pouvez pas le nier, on se dit, mais alors, bon, on voit la vanité sourdre par toutes les pores, enfin, dès qu'ils ont pondu un bouquin, et lui...
Quoi, contre les nouveaux philosophes, vous dites?
Non, pas les nouveaux philosophes, non, les
Il y a plus de vie aujourd'hui.
Enfin, je ne vais pas citer de nom, mais j'ai l'impression, moi, que vous auriez
c'est
pu écrire...
C'est romancier.
Oui, moi j'ai l'impression que vous auriez... Enfin, il y en a certains de très beaux, enfin, je veux dire, de très beaux physiquement. Et en même temps, Modiano, c'est vrai que c'est étonnant de le voir parler.
Oh, mais on a eu des profs sévères, nous, on a eu des profs sévères, on n'a pas eu Sagan pour prof, on a eu Henri Langlois,
voilà.
Jean Godard, c'est des gens, c'est des grands ascètes, hein. C'est des gens
voilà.
Qui ne s'achetaient pas de cravate l'année, hein. C'était vraiment des gens, il fallait dépenser ses sous pour acheter de la pellicule et pas pour s'amuser, et si on allait en boîte de nuit, c'est qu'on était sur la mauvaise voie. C'est pour ça, c'est parce que nos professeurs ont été des espèces de cinglés socratiques.
Stoïciens. J'aimerais beaucoup qu'on parle de l'enfant...
Mais pourquoi vous n'avez pas voulu écrire?
Ah, peut-être aussi les films de Jean-Luc Godard, ça m'a attrapé quand j'étais adolescent. Ça m'a vraiment... cette histoire-là qu'il a développée avec Anna Karina et tout, pour un lycéen qui sort du lycée là, à la sortie à 6 heures, comme ça, d'aller voir Jean-Luc Godard. Il y avait 3 personnes dans la salle et tout, mais c'était quand même... c'était le droit d'être incompris et toutes ces choses-là. Et il y avait sans doute plein de choses du transfert, comme ça. Parce que il doit y avoir plein de choses de la psychanalyse, du transfert et de l'identification... qui sont maintenant vécus par la communication audiovisuelle, ce qui est absolument atroce. Au terme d'une civilisation, c'est atroce ce qui se passe si on analyse bien qu'on est en train de parler par un micro à des gens qu'on ne connaît pas, qui écoutent, etc., qui vous répondront jamais. Tout ça, c'est assez fou de solitude. Alors les situationnistes ont très bien dénoncé ça, cette espèce d'absence de vie que remplaçait le spectacle. Mais je trouve qu'il y a eu tout de même des gens à l'intérieur de cette gigantesque aliénation qui ont été importants quand même pour les gens de comme je disais Langlois et Godard. Mais ce qui est triste, c'est que justement ça n'est pas suffi à des gens comme Jean Eustache pour pouvoir continuer à vivre. Ça veut dire qu'il y a vraiment une pulsion de mort très très forte chez les gens de notre âge, et exprimer la pulsion de mort, c'est déjà la cerner et la soigner. Alors, quelquefois, on ne peut pas exprimer la pulsion de mort, parce qu'elle est la pulsion de mort. Et c'est pour ça qu'on a tellement de difficultés, les gens de notre âge. Et puis, en plus, nous, on ne sait pas très bien de quoi il s'agit dans l'histoire. On ne sait pas, on nous parle de la résistance. Maintenant, on me dit, Jean Moulin, il était préfet. Première nouvelle, je ne savais même pas, je veux dire. Alors, tous les critères d'aujourd'hui, tout ce qui se donne en spectacle à l'extérieur, sont des choses qui ne nous concernent pas, parce que ce ne sont pas nos valeurs à nous. Et nos valeurs, c'est 1968. Et puis, si on en parle, on se fait traiter d'éternel phraseur et ringard. Alors, on est un peu en retrait, comme ça, parce que c'est une génération qui a une liberté de pensée.
Et une chose bizarre quand même, c'est que les gens qui ont fait la guerre de 14 ou la guerre de 40, on a l'impression qu'ils ont pu garder cette période-là plus longtemps que nous qui avons fait 68. Ça veut dire que nous, si on parle de 68,
oui, mais elle était quand même un peu plus meurtrière. Plus
Non, mais peu importe.
Chaque famille a perdu des pères.
Oui,
des
non,
fils,
mais et... on peut aussi toujours parler de ça. J'en parle comme on fait du cinéma. Je n'en parle pas avec le poids du sang, je n'en parle qu'avec les mots.
Mais, oui, mais je crois que la différence, c'est le poids du sang, justement.
C'est, vous pouvez imaginer ce que c'était la guerre de 14 et la guerre de 39. Ça, c'est, non, mais c'est toute la question, en fait. C'est-à-dire que c'est extrêmement difficile à imaginer, mais de toute façon, c'est pas...
Je veux bien qu'on dise ça. Ça me rappelle... excusez-moi, mais ça me rappelle toutes les terreurs philosophiques que j'ai toujours entendues. Je ne sais pas, il faudrait réfléchir.
Et plus longtemps que ça. Et puis en même temps, par exemple,
plus longtemps que ça.
40 ans sans guerre, nos parents ne savent pas le faire, ça. Alors, on devrait être quelque part considéré pour ça. Au contraire, c'est méprisé.
Le nombre d'assassinats moraux qui se passent aujourd'hui.
C'est ce que vous venez de dire qui est décisif. C'est ce que vous venez de dire qui est décisif. Effectivement, c'est 40 ans sans guerre, nos parents ne peuvent pas, ça c'est vrai. On a bien vu avec les Malouines. Ça, c'est, et soudain, ce que ça réveillait, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Parce qu'en plus, c'était Elsa Popine, enfin, d'une certaine façon. C'était complètement burlesque.
Oui, mais ça, c'était burlesque, il faut plus.
Non, mais ce que ça a réveillé, ce que ça a réveillé en Angleterre, et le fait que ça a pratiquement donné à, soit à Begin, soit à Madame Thatcher, soudain, un prestige tout à fait considérable, chiffrable. Bon, enfin. Ça, c'est vraiment une parenthèse. Parlons de l'enfant, puisque vous voulez parler de l'enfant, Caroline.
Oui, ça m'a un peu perturbée, là, ce qu'on a dit. Parce que je suis sûre qu'il faudrait trouver quelque chose dans cette idée, justement, d'une génération qui n'a pas saigné, et qui n'a pas saigné de son sang. Elle saigne autrement. Et elle saigne autrement, et elle saigne aussi, peut-être, en ne mettant pas d'enfant au monde. Je connais peu de générations qui soient aussi peu, comme on dit, pouvoir faire des enfants. Qui soit aussi stérile que cette génération-là, qui n'en fasse pas, qui a autant de mal à en faire.
Ils vont tous s'y mettre à 45 ans. Ça va.
Peut-être. Et alors, qu'est-ce que ça va... Bon, je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner. C'est pour ça que ça m'importe beaucoup de parler de cet enfant, parce que je trouve ça très étrange
d'avoir... Parce qu'il ne porte pas de mitraillette, l'enfant, quoi. C'est pour ça que ça ne marchera pas beaucoup, d'ailleurs. Parce que si dans les films de la Nouvelle Vague, on dit... tout à l'heure, on a dit du bien de... Mais on peut dire aussi du mal, ça saigne tout le temps, ça tue à droite à gauche.
Ils ont essayé de parler des enfants. Truffaut a essayé de parler des enfants et Godard a essayé de faire parler des enfants. Eh bien, là, il y a quelque chose qui est de l'enfance irréductible. Ça veut dire que cet enfant, on le voit très très peu. Il ne parle pas. Il dit une fois bonjour. Je ne sais même pas s'il dit bonjour. On le voit beaucoup de dos. Il y a des trucages quand il est dans l'image. C'est-à-dire que... On essaye de l'escamoter. Ça serait comme une mère qui dira « Moi, je ne veux pas que mon enfant fasse du cinéma parce qu'elle veut le protéger. » Cet enfant est à la fois donné comme centre et absolument protégé. Et c'est un centre, cet enfant, dans le film ?
Oui, c'est comme vous dites. Nous, on ne veut pas que cet enfant fasse du cinéma ou c'est déjà tellement atroce de mettre un enfant au monde dans une débâcle philosophique pareille, qu'il ne faut surtout pas essayer de lui transmettre quoi que ce soit, qui soit les fumisteries avec lesquelles notre époque se déguise. C'est simplement pour le cacher qu'on le montre presque.
Mais
pas.
Il illumine tout en même temps. Donc on l'a quand même fait, il illumine tout. La scène où Anne Wiazemski est couchée dans un hôtel avec son enfant dans un lit et où l'homme est couché dans un autre lit et que donc c'est plus que faire l'amour, on a l'impression qu'ils sont, je ne sais pas, c'est un niveau d'amour très très grand de ne pas partager un espace physique et en même temps d'être dans la même chambre, dans deux lits différents et avec cet enfant qui est comme en prière. Mais moi je l'ai vu comme en prière parce qu'il avait les mains jointes. Mais je ne sais pas, peut-être que chez lui, c'est un geste naturel, je ne sais pas. Est-ce qu'il était en prière ?
Non, c'était comme ça, il s'amusait. Oui, c'est un peu comme on pourrait dire, on ne va pas parler à nos enfants pour l'instant, parce qu'il y a encore leurs grands-parents dans la salle, quoi. Et justement, parce que justement, ce qu'il faudrait leur dire, c'est quelque chose qui est tellement paisible et pacifique et... qui concerne tellement plus l'amour que la guerre, qu'il faudrait mieux attendre qu'il soit sorti. Ça, c'est vrai. Il n'y a pas de précepte d'éducation hein, dans le film. C'est à cause de ça.
Et pour ce qui est de l'enfant, on peut se demander, même si l'enfant secret du titre, c'est bien l'enfant du film, parce que ça pourrait être d'autres choses dans le film que cet enfant secret. Ça pourrait même être le personnage de l'homme. Il pourrait être lui-même l'enfant secret, mais secret justement parce que homme et pourtant enfant.
Oui, où tout le monde est un enfant secret.
Oui, moi personnellement, je ne sais pas qui est l'enfant secret de cette histoire. Et d'ailleurs, quand Philippe m'a parlé de ce film, il ne s'appelait pas l'enfant secret, il s'est appelé l'enfant secret après coup. Et je ne sais pas qui c'est.
Ah oui, on voulait l'appeler les forêts désenchantées au début, mais c'était trop comme ça, un rébus.
Il y a un passage.
Non, mais pourquoi les forêts désenchantées?
Parce que c'était quand même, depuis la rencontre amoureuse, c'était la désillusion quand même, c'était les illusions perdues. Et on a dû passer des illusions perdues à l'éducation sentimentale, quoi, petit à petit, en se dirigeant vers l'analyse des sentiments en fonction de l'enfant, plus.
Mais tout à l'heure, vous disiez que c'était un film que vous aimez bien parce que vous le trouviez très près de la vie, vous avez dit que...
C'est pas exactement près de la vie, c'est parce que je trouve que c'est un film où il y a du vivant, simplement.
Oui.
Parce que, mais je peux même en dire un point plus.
C'est des actualités amoureuses, oui.
Oui, il y a du vivant.
C'est un peu bête, évidemment, de dire du bien du film qu'on a fait, mais ce que je trouve que Philippe Garrel a très, 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 très bien montré, c'est certains moments d'une histoire amoureuse que... on n'a pas l'habitude de voir au cinéma. Par exemple, moi, quand j'essaye d'oublier que c'est moi, etc., je me dis, on a vraiment l'impression très très forte, quand on dit les amoureux sont seuls au monde, ça, on a ça, très très, on a cette impression-là, quand on voit ce couple qui déambule dans Paris vide. Et puis, il filme la rencontre, filmer un coup de foudre, une rencontre, je trouve que c'est très dur, c'est très rare que ça fonctionne, là ça fonctionne. Et puis surtout, ce qu'il a fait de plus rare, il a montré ces moments où l'amour commence à s'en aller, en même temps est encore là, et on arrive, où c'est fini déjà, le verre est dans le fruit, et on n'arrive pas à se quitter. Vous savez, on a tous connu ça dans sa vie. Quand on doit devoir se quitter à un moment de la soirée, mais on n'y arrive pas. Et inlassablement, on se raccompagne d'un point à un autre, d'un point à un autre, alors que la rupture est là, la séparation est là, la souffrance est là. Mais alors, il y a ces moments intermédiaires qu'il a chopés, et que je trouve très, très rare au cinéma.
Oui, parce que je crois qu'il a filmé le temps comme on le filme rarement. Je pense que là, on a absolument le spectateur, nous dans la salle, on a absolument le temps de voir ce qui se passe sur l'écran, et on peut tout regarder, parce que comme il se passe
ça, c'est son défaut au film, sa lenteur.
Ah non, moi je trouve pas du tout. Pas du tout, moi aussi. Moi je trouve que justement, l'une des forces du film, c'est que justement, on n'est pas du tout précipité par les images. Et
mais
au contraire,
un paysan du Luberon, il vous dira que c'est son défaut.
Ah, paysan du Luberon peut-être, mais moi je suis pas paysan du Luberon, je peux pas parler en son nom, je peux parler comme mon nom à moi. Et l'autre, ce qui pour moi aussi fondamental dans le film, c'est comment il fait passer les sensations.
C'est-à-dire que justement, ça, l'idée du fragment.
Justement aussi à cause du temps. Alors comment on a absolument il y a des scènes étonnantes de froid, de pluie, où on sent véritablement ce que sent le personnage. Alors, moi, j'ai eu le sentiment de sentir ce que vous sentiez, Anne Wiazemski sur l'écran. Il y a peu de films qui réussissent ça de cette façon-là.
Bon, alors, bon, justement, c'est ça, oui, c'est ça. C'est-à-dire que, effectivement, c'était le mot qui nous manquait, c'était le temps, peut-être, parce que c'était trop évident. Mais votre façon, par exemple, de fragmenter les choses comme ça, de choisir des fragments, Vous parliez d'actualité amoureuse, c'est ça que vous voulez dire, non ?
Oui, moi j'essaie de faire toujours des films qui soient qui aient l'authenticité des actualités, mais simplement sur la question de l'amour, donc. Et en même temps, je ne fais pas exprès de déstructurer comme ça mon récit et puis d'aller lentement. Je m'en aperçois à chaque fois quand je recule. C'est-à-dire qu'à la sortie du montage, là j'ai monté le film, je me suis isolé dans une salle de montage assez longtemps. Je dormais dans la salle de montage, j'ai monté ça en banlieue, comme ça, dans le laboratoire et tout. Je m'étais fait ami avec des ouvriers, des ouvrières, du montage négatif, tout ça. J'ai essayé de faire une grève avec eux. J'ai écrit « Vive l'anarchie » au-dessus d'une pointeuse, là où les ouvrières viennent le matin à 7h30. Enfin, j'essayais que le cinéma, ça soit autre chose que quelque chose de factice dans ma vie. Et puis j'étais seul, alors je montais mon film. Et quand j'ai reculé du film, je me suis aperçu, ah mais il y a encore ce problème de la lenteur. Peut-être j'ai trouvé une terminologie qui est plus adéquate pour être compris par des jeunes ouvriers. Mais par l'élite ouvrière, je ne veux pas être compris par des millions de personnes, mais par des gens qui sont d'un autre milieu et que je ne rencontrerai jamais, puisqu'il faut bien faire les choses bien, puisque le cinéma sert à communiquer des impressions sur sa vie à quelqu'un d'autre, et autant le faire, sinon autant ne pas faire de film. Et je me suis aperçu qu'il était, encore une fois, beaucoup trop lent, et ça me gêne plutôt, et un peu déstructuré. Et c'est des choses que des fois on ne pouvait pas comprendre, alors que je voulais dire des choses simples. Alors c'est des choses qui sont malgré moi, c'est parce que c'est mon pinceau qui guide ma main de temps en temps, plutôt que ma main guide mon pinceau. Mais ça c'est malgré moi, je voudrais bien faire les choses simplement. De même quand je parle, ça me gêne maintenant d'avoir été au lycée, tout ça, de parler néo-structuraliste tout le temps, comme ça, de lire que des choses dans lesquelles du cinéma... très intellectuel et tout. Moi, j'attends tout le temps qu'on me dise les choses simplement.
Mais le film est très simple. Moi, je trouve qu'il est simple et naïf. Il n'est pas du tout...
Il est plus simple que mes autres films. Enfin, il y a quelque chose qui me gêne encore dans ce que je fais. Je voudrais, sans concéder sur ce qui fait la profondeur de ce que je dis, si c'est profond... Et je voudrais pouvoir m'exprimer plus simplement, pour être compris plus facilement de jeunes gens que je voudrais toucher. Moi, j'ai été très en grippe avec mon pays, puis maintenant, j'ai envie de quelque part que ça communique, quoi, que la copie parte dans des trains de marchandises pour Rennes, pour Bordeaux, pour Caen, et puis que là-bas, il y a quelques personnes qui voient ça, ça, c'est un film qui a coûté pas cher du tout. Il a coûté 44 000 francs à tourner. Et je voudrais que des gens qui n'ont pas d'argent, tout ça, puissent voir le film et pensent que c'est pas seulement une affaire de sous et une affaire de paillettes, le cinéma. Alors donc, il faut que je fasse attention, que je m'exprime pas d'une manière difficile et intellectuelle, que c'est un des défauts de mon éducation.
Si je peux prendre un plan simplement, qui est le plan qui est un travelling sur Anne et sur Henri Maublanc, qui sont en train de marcher le long de grilles, si je me trompe.
C'est
pas.
La place de la Concorde à 5h du matin.
Voilà. Et Henri raconte son histoire de film à Anne. Et c'est un plan qui dure assez longtemps. Il dure plusieurs minutes, j'ai l'impression. Je ne saurais pas dire la durée exactement. Henri raconte son truc et Anne, visiblement, l'écoute et l'écoute pas. Et ça dure, simplement. Et la durée du plan, la façon dont c'est filmé, extraordinairement simplement. Là, on ne peut pas faire plus simple pour suivre deux personnes. Je ne sais pas s'ils sont coupés à la taille, plus précisément. Juste, on se déplace, on les suit très précisément, il ne se passe rien d'autre.
Et on lui demande s'il a mangé, deux fois.
Voilà, et on sent parfaitement les préoccupations de chacun. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être plus avec ces deux personnages qu'on est à ce moment-là, parce qu'il y a cette extrême simplicité que vous avez pour filmer ça.
Oui, comprendre, oui, mais... Oui, parce que l'important, c'est de se faire comprendre. Mais il y a d'autres moments où on ne pourrait pas dire ça.
Philippe Garrel, tout de même, est-ce que le fait de prendre votre temps à tous égards n'est pas votre acte, politique, moral, personnel, essentiel ? Est-ce que votre anarchie n'est pas là ? Parce que cette conciliation étrange qui est chez vous et qui est d'ailleurs dans la tradition anarchiste, qui est la conciliation entre la douceur et la, et le refus, enfin, c'est le refus le plus absolu qui est pratiqué par les gens les plus doux, étrangement. Enfin, c'est une sorte de quand on pense à des gens comme de cette tradition qui appartiennent de près ou de loin, comme Jacques Prévert, par exemple, des gens comme ça, on se rend compte que c'est des gens d'une très 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 grande douceur, enfin profonde. Est-ce que ça ne vient pas du fait que personne ne prend son temps et que vous le prenez?
Oui, c'est comme de parler doucement. C'est pour ne pas hurler dans le chaos social. C'est-à-dire que comme c'est effrayant, comme le chaos social est effrayant, et les aliénations sociales comme ça, immenses et absolument non analysées, c'est comme parler à voix basse quand tout le monde hurle. Et oui, c'est une manière de me comporter qui m'est propre et qui est propre aux gens de la poésie, on dit, oui.
Merci Philippe Garrel, merci Anne Wiazemski, et naturellement, bien entendu, le film qui nous importe cette semaine s'intitule « L'enfant secret ». C'est le prix Jean Vigo, 1982.
C'était Le cinéma des cinéastes. Claude-Jean Philippe, entouré de Caroline Champetier et Pierre Donadieu, recevait Philippe Garrel et Anne Wiazemski pour parler de L'enfant secret de Philippe Garrel, une émission diffusée pour la première fois sur France Culture le 13 février 1983. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger en ligne sur le site franceculture.fr, à la page des nuits.
Je confesse qu'il me faut du temps, de tendresse, je n'en attendais pas tant.
La détresse te va comme un gant, je te laisse pour un long. Thank you.
juste amour.